Vous écoutez Europe 1.
Il est midi.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous. Saviez-vous qu'un policier a 50 voire 60 50 fois plus de chances de se faire agresser verbalement ou physiquement que l'ensemble de la population? C'est un rapport ministériel qui le dit, c'est relayé par nos confrères du Figaro aujourd'hui. Nous en parlons avec nos débatteurs du jour, Benjamin Lucas, député écologiste NUP des Yvelines, et Xavier Iacovelli, sénateur territoire de progrès des Hauts-de-Seine. Nous parlerons aussi avec eux de ce visiteur du soir un peu spécial reçu à l'Élysée aujourd'hui, le prince héritier d'Arabie Saoudite dîne avec Emmanuel Macron. MBS Mohamed Ben Salman de retour en France pour la première fois depuis l'affaire Khashoggi. Est-il devenu fréquentable et surtout incontournable en pleine crise de l'énergie? Nous en débattrons après midi 20. Et puis, alerte sécheresse sur toute la France, 91 des 96 départements concernés. Nous sommes le jour du dépassement aujourd'hui. La terre vit désormais à crédit. Et puis nous reviendrons aussi sur ce rêve envolé de nos bleus ES. Les joueuses de l'équipe de France éliminées de l'Euro de football hier par l'Allemagne. Bienvenue à tous.
Europe 1.
Mais avant de développer tous ces titres, passage par hier dans le Var. Depuis 24 heures, un requin bleu tourne en rond près de la plage de l'Almanar. Nina Droff s'angoisse toujours de voir un aileron émerger, surtout quand on a vu, vous avez peut-être reconnu la musique, Les Dents de la Mer. Mais là, le scénario est quand même beaucoup moins inquiétant.
Oui, ça surprend bien sûr de croiser un requin bleu de plus de 2 mètres de long quand on est en train de barboter. Tout le monde s'est dépêché de sortir de l'eau en courant à la plage de l'Almanar. Mais en réalité, pas de crainte à avoir. Cette espèce est totalement inoffensive et même plutôt courante. Écoutez Nicolas Ziani du groupe Phocéen d'études des requins.
Le requin bleu, c'est une espèce qui est commune en Méditerranée. Les adultes vivent au large et viennent à la côte pour se nourrir de manière opportuniste. Et à la saison estivale, les femelles viennent donner naissance. Il n'y a pas de risque d'attaque, les eaux sont sûres. Le requin bleu, il mange des sardines, des anchois. Les espèces en elles-mêmes, elles ne sont pas agressives, mais elles peuvent se défendre.
Alors, il y a quand même quelque chose d'inhabituel avec cette femelle repérée hier dans le Var. Elle n'est toujours pas retournée vers le large après 24 heures. Un comportement très étrange selon les spécialistes.
L'animal n'est pas bloqué, en fait, il agit librement. Mais en fait, c'est comme si c'était un requin en aquarium qui fait des tours en haut. On dirait qu'elle est presque téléguidée. En fait, il n'y a pas de finalité au comportement. Ça doit se passer peut-être en interne, c'est-à-dire dans l'organisme de l'animal, cérébral ou neurologique.
L'animal reste pour l'heure sous surveillance avant une éventuelle intervention. Et si, Raphaël, vous inquiétez de voir de plus en plus de requins ou autres espèces dangereuses débarquer en Méditerranée, avec la hausse de la température de l'eau, Nicolas Ziani va aussi vous rassurer.
On a une température d'eau peut-être qui perturbe certains comportements par la chaleur, par la hausse des températures. Mais il n'y aura pas de transformation de l'écosystème en termes d'espèces.
Donc a priori, à part des piqûres de méduses et des coups de soleil, vous ne risquez pas grand-chose sur la plage pour le moment.
Voilà, pas de panique. Merci de nous rassurer, Nina Droff. Vous nous avez d'ailleurs doublement rassuré. Hein. Le requin bleu n'est pas dangereux et sa présence dans les eaux de plus en plus chaudes de Méditerranée n'est pas directement liée au dérèglement climatique. En revanche, lorsque l'on voit la carte des alertes sécheresse, là, on s'interroge. 91 des 96 départements sont concernés. Alerte sécheresse, ça veut dire restriction d'eau. Plus le droit d'arroser son jardin, son potager ou encore de changer l'eau de la piscine. Ça vaut aussi pour les professionnels. Là aussi, les agriculteurs sont soumis à des limitations. Et vaut mieux ne pas se risquer à enfreindre les règles. Il y a des contrôles de la fameuse police de l'environnement. Chloé Lagadou a suivi ses agents dans le Val-de-Marne, l'un des départements concernés par les alertes sécheresse.
À bord de leur véhicule blanc siglé Police de l'environnement, ces deux agents de l'Office français de la biodiversité patrouillent.
Donc on va à Mandres-les-Roses, à deux stations de lavage.
Pendant que Sylvain conduit, Arnaud, carte en main, donne des indications sur les lieux à contrôler.
Les croix rouges, c'est les stations de lavage. Les points noirs, c'est tout ce qui est complexe sportif, tout ce qui est en couleur.
Les deux policiers sont à l'affût, leurs yeux balayent les moindres recoins, explique Sylvain.
On regarde toujours à droite, à gauche. À partir du moment où on va avoir des flaques d'eau ou de l'eau qui va ruisseler le long du trottoir, là on va dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des endroits où les accès sont interdits, donc là c'est peut-être là qu'il faut peut-être aller vérifier.
Et justement, au fond d'une impasse, un maraîcher en train d'arroser son champ.
Bonjour monsieur. Je me présente, police de l'environnement.
Arrosage plein air comme ça en gel, c'est interdit. Mais vous voyez, donc c'est là, regardez. Okay. Irrigation par aspersion des cultures, Interdit, hein.
Okay.
En tout cas, là, coupé.
Le maraîcher pourra s'en sortir à une seule condition, que son puits de forage bénéficie d'une dérogation. Mais si l'infraction se confirme, les agents verbaliseront et les montants sont élevés, précise Arnaud.
Si verbalisation il y a, c'est 1500 euros. Ça, c'est dans le cas de particuliers. Par contre, si vous êtes dans le cas d'une entreprise, c'est 1500 euros x 5.
Arnaud et Sylvain ne sont pas prêts d'arrêter les patrouilles. Pour ça, il faut attendre que les nappes phréatiques et que le débit des cours d'eau soient suffisamment rechargés.
Reportage de Chloé Lagadou. Et dans ce contexte aride, les risques de feu sont démultipliés. Un camping de 400 personnes évacuées près de Castellane dans les Alpes de Haute-Provence. Hier, un feu a démarré vers le village de Rougon. Et puis en Ardèche, les incendies démarrés hier près d'Aubenas sont fixés. Leur origine serait criminelle d'après le parquet. 950 hectares ont été ravagés. Écoutons le préfet du département, Thierry Devimeux.
On considère maintenant que le feu est fixé. Il a été fixé ce matin à 6h du matin. On a un feu qui a parcouru entre 1100 et 1200 hectares, ce qui est beaucoup, beaucoup. Il y a encore quelques points chauds qui subsistent tout le long de cette surface et c'est pour ça que 400 pompiers vont rester déployés toute la journée pour pouvoir accéder à ces points chauds et les traiter afin d'éviter que le feu ne reparte. Et hier soir, nous avions une inquiétude parce que le feu se rapprochait d'un village qui s'appelle Vauguet et les sapeurs-pompiers ont pu travailler toute la nuit pour fixer ce feu avant le village et faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger pour les habitants. 350 personnes avaient été évacuées par précaution hier, 200 dans la partie nord du feu sur la commune de Lussas et 150 sur la commune de Vauguet, là où le feu progressait. Toutes ces personnes ont pu réintégrer leur domicile dans la soirée ou dans la nuit. Donc ce matin, plus personne n'est sans domicile.
Thierry Devimeux, le préfet de l'Ardèche. Voilà, la France n'en a pas fini avec les feux de forêt. Il y en a d'ailleurs aussi ailleurs dans le monde, en Espagne, au Maroc ou encore aux États-Unis. L'humanité qui a d'ailleurs consommé depuis aujourd'hui tout ce que la Terre produit chaque année, toutes ses ressources en forêt, en eau, en stockage de CO2, c'est le devenu tristement célèbre jour du dépassement. Il ne cesse d'intervenir plus tôt d'année en année. Nous sommes le 28 juillet. En 1970, le jour du dépassement, c'était le 29 décembre. Louis Salé, il existe pourtant des moyens de faire reculer cette date fatidique, mesurée, on le rappelle, par l'ONG Global Footprint Network.
Eh bien, puisque ce jour est calculé sur la quantité d'espace naturel exploité, il faut par exemple consommer moins de viande. Pierre Canet est porte-parole du WWF France qui travaille aux côtés du Global Footprint Network.
Par une réduction de moitié de la consommation de viande au niveau mondial, il y a la possibilité de faire reculer de 17 jours la date du jour de dépassement. Notre consommation de viande repose sur beaucoup de ressources. Par exemple, un Européen consomme 61 kg de soja par an. 80% de ce soja, eh bien, il est consommé pour nourrir les bêtes.
Divisé par deux, le gaspillage alimentaire, soit 40% de la nourriture produite chaque année, nous fait gagner 13 jours. Et décarboner la moitié de l'électricité mondiale nous avance de 42 jours. Parce qu'à partir de ce 28 juillet, la Terre n'absorbe plus le CO2 que l'on émet. Les écosystèmes sont saturés en grande partie à cause de ça.
Et donc ces énergies fossiles, elles correspondent à ce qu'on appelle des règlements climatiques. D'ici 30 ans, c'est des points de non-retour, des basculements vis-à-vis des sécheresses, vagues de chaleur, incendie. Il n'y a pas de fatalité parce qu'il est encore possible de changer à travers des changements de système agricole et alimentaire, à travers une décarbonation des transports, des logements au niveau français, au niveau européen, dans les négociations internationales.
Les pays riches doivent fournir une grande partie de l'effort. Leur responsabilité est importante dans la précocité de cette date. Si le monde vivait comme les Français, ce jour du dépassement serait atteint le 5 mai.
Voilà les pistes pour faire reculer le jour du dépassement. Merci Louis Salé. Un avis de recherche lancé par la police. Hier, un jeune enfant, Kélisson Richelier, 6 ans, a disparu depuis lundi à Rouen. Le père a signalé la disparition vêtu d'une chemisette blanche, d'un short bleu foncé, de sandales rouges et noires. Il aurait une légère marque sur le front. En cas d'information, contactez les enquêteurs au 02 32 81 25 00. 02 32 81 25 00. Au chapitre justice, toujours, le rapport de l'inspection de justice sur la mort d'Ivan Colonna, remis à la première ministre aujourd'hui. L'assassin du préfet Erignac, tué après une agression islamiste dans la prison d'Arles en mars dernier. L'avocat de la famille, Sylvain Commier, regrette que le rapport ne soit pas rendu public. Il espère aussi en savoir plus sur les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort de l'indépendantiste corse.
C'est une accumulation de choses qui sont censées ne jamais se produire dans une centrale comme celle d'Arles.
comment se fait-il qu'il ait pu être seul avec Yvan Colonna dans une cellule dédiée au sport dont la porte était fermée alors qu'elle aurait dû être ouverte avec des surveillants derrière. Comment se fait-il que derrière les caméras, personne et les écrans, personne n'ait rien vu. On veut comprendre comment les choses ont pu en arriver là. On nous promettait que le rapport serait communiqué, y compris au grand public, de manière transparente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on n'est pas du tout sur une démarche de transparence spontanée, quoi. Je sais que la famille est très déterminée à avoir des réponses claires, des réponses précises sur des manquements évidents.
L'avocat de la famille d'Yvan Colonna, maître Sylvain Cormier. Un suspect interpellé au Mans hier, une agression au couteau a fait plusieurs blessés sans que leur jour ne soit en danger. L'individu arrêté dit être né en Afghanistan. Il aurait proféré des mots en langue arabe au moment de l'agression. Pas de dimension terroriste, selon la procureure. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive au Sénat. Il est à l'examen. Aujourd'hui, les sénateurs se penchent sur ce qui a été adopté par les députés. La prime Macron jusqu'à 6 000 euros, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ou encore la prime carburant, 30 centimes d'euros par litre à la pompe, aide bienvenue pour les automobilistes de ce contexte d'inflation et de crise énergétique. Elle se répercute sur nos grands groupes aussi, en bien ou en mal. EDF et Total publient leurs résultats au premier semestre aujourd'hui. Aurélien Fleureau, l'un et l'autre sont aux antipodes. Commençons par EDF, bientôt renationalisé et qui enregistre une perte historique.
Oui, 5,3 milliards d'euros de pertes. Alors, le contexte international en est en grande partie à l'origine, avec la mise à contribution d'EDF par l'État pour contenir la facture d'électricité des Français. Le groupe a été contraint de vendre davantage d'électricité bon marché à ses concurrents pour protéger les ménages. Mais ce qui pèse très lourd également, ce sont les difficultés rencontrées pour produire du nucléaire, avec 56 réacteurs à l'arrêt pour des problèmes de corrosion et 18 autres en maintenance. Le tout, évidemment, dans un contexte où le gouvernement a annoncé la renationalisation d'EDF qui sera effective à l'automne prochain.
Et à contrario, Total Energy semble tirer profit de ce contexte international. Le mot est faible, d'énormes bénéfices pour le groupe pétrolier.
Oui, effectivement, Raphaël, pour Total Energy, c'était attendu. Hein, avec ce contexte de hausse des prix des hydrocarbures, le groupe vient d'enregistrer un bénéfice de 5,7 milliards d'euros au deuxième trimestre, bénéfice qui a plus que doublé en un an. Alors Total Energy n'a pas forcément produit plus, mais l'envolée des cours du pétrole et du gaz, essentiellement due à la guerre en Ukraine, a permis cet impressionnant résultat. Et donc par anticipation, en plein débat sur les super-profits, le groupe avait annoncé vendredi dernier que la ristourne à la pompe allait passer à 20 centimes par litre dès le 1er septembre dans les 3600 stations-service de leur réseau. Total Energy n'est d'ailleurs pas le seul groupe à profiter de ce contexte, puisque le pétrolier britannique Shell a également annoncé ce matin un bénéfice multiplié par 5 à 18 milliards de dollars entre avril et juin.
Merci Aurélien Fleureau. Le marché de l'énergie, la montée continue des cours du gaz et du pétrole au cœur de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, ce soir à Paris. MBS dîne avec le président Emmanuel Macron. De retour de sa tournée en Afrique, il est en Guinée-Bissau ce matin. Ce sera le premier passage officiel en France d'MBS depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi il y a 4 ans. Ça fait évidemment polémique. Nous en débattons après midi 20 dans Europe Midi. Comment faire du neuf avec du vieux? L'univers de Game of Thrones de retour sur nos écrans 3 ans après la fin de la série. Alors c'est ce qu'on appelle un prequel, une série dans la série. Ça s'appelle House of the Dragon, la maison du dragon. Marie Jiquel, le programme est présenté en ce moment à Los Angeles.
La contrée de Westeros peuplée de dragons, c'est ce que dévoile la bande-annonce de la série aux effets visuels impressionnants. Il faut dire que HBO, producteur et diffuseur, a mis la main au portefeuille, doublant le budget de Game of Thrones. House of the Dragon a coûté 200 millions de dollars. Pas étonnant que ces créatures légendaires soient de la partie, l'histoire porte sur la famille Targaryen, habituée à les chevaucher et qui se dispute sans surprise le fameux trône de fer. Sauf qu'ici, nous sommes 200 ans avant l'ère Game of Thrones. Nouveau personnage, nouveau générique, nouvelle musique, mais même auteur, le romancier américain George R.R. Martin. L'intrigue se base sur son livre Feu et Sang et le père de la saga se réjouit de cette adaptation qu'il trouve trouve très réussi et qui devrait courir sur 3 ou 4 saisons. Enfin, nous sommes loin d'en avoir fini avec cette épopée Game of Thrones puisque George R.R. Martin écrit toujours le 6e tome de cet inaltérable trône de fer.
Voilà, Game of Thrones, un dérivé de Game of Thrones revient sur nos écrans. Game of Thrones, la seule série diffusée dans 173 pays différents. Désillusion pour les Bleus hier, défaite de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro féminin de football, 2-1 face à l'Allemagne, pas de finale. Mais la satisfaction d'avoir atteint le dernier carré d'un tournoi international pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France féminine, c'est le seul motif de satisfaction, Cyril Delamorinerie.
Oui, évidemment, l'objectif des Françaises était de remporter 7 euros, mais les Bleues n'ont pas à rougir de leur performance. D'abord, elles ont atteint pour la première fois les demi-finales d'un euro. Ensuite, les Françaises ont ravi le public avec notamment cette démonstration face à l'Italie ou cette victoire arrachée contre les tenantes du titre, les Pays-Bas. En plus, les Bleus avaient perdu sur blessure Marie-Antoinette Catoto, leur meilleure joueuse, en attaque pendant la phase de groupe. Et elles ont eu 2 jours de récupération en moins que les Allemandes pour préparer cette demi-finale. C'est pourquoi la sélectionneur Corinne Diacre ne blamait pas ses joueuses hier soir au micro de Canal+.
Il nous a manqué encore ce petit brin de réussite devant le but. Même si on s'est très bien battus, voilà, je suis très fière de mes joueuses. Et je suis déçue de les voir déçues, bien évidemment. Mais elles ont tout donné ce soir. Et bon. Ça, c'était important.
Quant à l'avenir de Corinne Diacre, en fin de contrat, eh bien Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, devrait la recevoir prochainement. Avec ou sans la sélectionneur actuelle, eh bien les Françaises vont de toute façon préparer la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quant à ce dimanche, eh bien la France pourrait avoir un lot de consolation. La finale Angleterre-Allemagne pourrait être arbitrée par Stéphanie Frappard.
Merci Cyril de la Morinerie. La météo, nuageux au nord, ensoleillé au sud. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et des orages sur les Pyrénées et vous avez tout bien résumé. Donc sur le nord jusqu'au Grand Est, le ciel est nuageux, voire très nuageux aujourd'hui. De rares et faibles ondées se produisent au fil de l'après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou et le nord de la Seine dans la journée et dans la soirée sur le nord-est. Au sud, c'est soleil, sauf des orages sur les reliefs. Les températures grimpent entre 28 et 34 sur les régions méditerranéennes, parfois jusqu'à 36 encore, entre la moyenne vallée du Rhône, le Gard, la Provence, l'intérieur du Var, 21 à 25 du nord de la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, 25 à 30 sur le reste du pays, localement 31 en plaine d'Alsace.
C'est bien noté, merci Valérie Darmon.
Europe 1.
Le choix de Mola.
Allez, on retrouve nos libraires bordelais chez Mola, notre partenaire cet été encore. Et avec vous Stéphane Place, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
On s'arrête au rayon Histoire aujourd'hui, un livre sur Jeanne d'Arc. Alors, ça n'est pas le premier ouvrage qui lui est consacré, loin s'en faut, mais l'approche de l'historienne Claude Govard qui signe cet ouvrage en vaut tout à fait l'intérêt, Stéphane.
Oui, alors dès l'introduction, Claude Govard dit bien qu'il ne s'agit pas de livrer une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc. Hein, l'existence de la Pucelle d'Orléans, de sa naissance en 1412 à Domrémy jusqu'à sa mort sur le bûcher en 1431, sa foi, ses hauts faits d'armes, tout cela est connu, a maintes fois été raconté. Non, là, notre éminente médiéviste articule sa réflexion, son travail autour d'une interrogation finalement. Pourquoi Jeanne d'Arc a suscité tant de haine, y compris après sa disparition d'ailleurs, et aussi tant d'admiration au point d'en faire une héroïne de notre récit national. Et c'est cette démarche, ce questionnement, qui a passionné Jean-Marc Bourlard, libraire chez Mola.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a envie de se dire, Jeanne d'Arc, comment elle était apparue, elle est arrivée comme ça. Non, ce n'est pas un hasard, en fait. Des Jeanne d'Arc, en fait, il y en a eu plein à l'époque, nous dit Claude Govard. C'est la guerre de Cent Ans, il y a cette bataille entre Armagnac et Bourguignon. Et donc, en fait, Jeanne, elle entend des voix qui lui disent qu'il faut bouter les Anglais hors de France. Et finalement, cette étude, elle nous plonge, en fait, à travers la figure de Jeanne, dans les croyances et les peurs de cette France du XVe siècle, tout en nous permettant de comprendre comment le mythe de Jeanne d'Arc, en fait, elle s'est constituée dès son vivant et comment ses contemporains l'ont perçu.
Et Claude Govard a retrouvé un document aux Archives nationales montrant que l'on traitait encore Jeanne, 30 ans après sa mort, de putain ribaude. L'historienne nous explique dans ce livre que ce n'est pas un hasard si l'on a décidé de la brûler vive, de la condamner à la peine de feu.
Ça les arrangeait bien de la faire brûler parce que non seulement elle est hérétique, mais elle est sorcière. Et ils sont persuadés, les Anglais, qu'elle les a envoûtés. Et que c'est parce que les soldats anglais étaient envoûtés au siège d'Orléans qu'elle a pu libérer la ville, et en particulier le fort des Tourelles, au moment où elle est sur le bûcher. un soldat anglais sort du rang avec un fagot et le jette dans le brasier pour accentuer le feu. Et c'est le lynchage qui est réservé aux sorciers parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se désenvoûter que de brûler le sorcier quand celui-ci n'a pas, en quelque sorte, annihilé le sort qu'il avait jeté. Et là, c'est le cas de Jeanne d'Arc, hein, bien entendu. Et j'y ajoute dans ce livre une réflexion qui est peut-être osée, mais à laquelle je crois beaucoup. Je ne suis pas sûre que les conseillers de Pierre Cauchon, voire Pierre Cauchon lui-même, n'aient pas été inquiets de la sorcellerie de Jeanne.
Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre, c'est un livre de moins de 200 pages qui offre, je m'empresse de le souligner, un éclairage riche, intéressant, mais aussi tout à fait accessible. Ça se lit très aisément.
Merci Stéphane Place dans les travées des nombreuses étagères de la librairie Mola à Bordeaux. C'est à retrouver tous les jours dans Europe Midi.
Europe Midi.
Dans quelques instants, le débat. Je vous présente nos débatteurs du jour. Benjamin Lucas, député écologiste NUP des Yvelines, bonjour.
Bonjour.
Et Xavier Iacovelli, sénateur Territoire et Progrès, c'est la majorité présidentielle, bonjour.
Bonjour.
Et on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Midi, il est midi 23, l'heure du débat. Je suis avec Benjamin Lucas, député écologiste NUP des Yvelines, Xavier Iacovelli, sénateur Territoire de Progrès, c'est la majorité présidentielle. Et j'évoque avec eux cette nouvelle marque d'une violence ordinaire, décomplexée, impunie. Un rapport ministériel sur la sécurité intérieure à lire dans Le Figaro aujourd'hui et dans lequel il est clairement affirmé que la police... Les forces de sécurité sont 50 à 60 fois plus visées par les atteintes physiques ou verbales que tout le reste de la population. Policiers et gendarmes représentent plus de la moitié des victimes, 52%. Xavier Iacovelli, on est face à un phénomène de société.
C'est un fait. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le rapport tombe à pic et confirme en fait ce que nous avons fait déjà dans le précédent quinquennat, notamment en créant un nouveau délit pour les attaques effectivement sur les représentants de l'autorité publique. Et on a également supprimé les remises de peine, qui étaient parfois des remises de peine automatiques quand on faisait sa peine. On les a supprimées pour tous ceux qui avaient effectivement eu des atteintes contre les forces de l'ordre et tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique. Donc je pense qu'il faut continuer là-dedans, montrer que les représentants de l'État, à tous les niveaux, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient policiers, gendarmes ou élus, ne doit pas être impuni et donc on doit avoir une plus grande fermeté effectivement sur ces actes-là.
Benjamin Lucas, ces chiffres interpellent, 50 à 60 fois plus.
Oui, et c'est intolérable et vous l'avez dit, celles et ceux qui représentent l'État, l'autorité, celles et ceux qui représentent l'intérêt général, les fonctionnaires de police, enseignants, soignants, sapeurs-pompiers, méritent le respect. De nos concitoyens, de l'ensemble de nos concitoyens, évidemment. Et donc moi, je condamne évidemment toute attaque verbale, physique contre des policières et des policiers. Mais il faut ne pas excuser, mais il faut expliquer. Et donc vous pouvez...
C'est là que vous n'allez peut-être pas être d'accord.
Oui, parce que vous persistez, donc vous dites « on a durci ». La preuve en est avec ce rapport que la politique d'ultra-répression, d'ultra-brutalité qui est celle de ce gouvernement, et d'ailleurs des gouvernements successifs, la surenchère pénale ne fonctionne pas, puisqu'elle n'est pas de nature rétablir un climat de sérénité. Donc moi, je crois qu'il faut, là aussi, c'est un problème très, très complexe. Hein. Si la réponse était uniquement pénale et durcir, ça fait longtemps que ça se saurait, parce que ça fait quand même des décennies qu'on durcit en permanence les sanctions. Donc il faut à la fois des moyens, il faut protéger nos policiers aujourd'hui, qui sont exposés au burn-out, au stress, à qui on demande par ailleurs de plus en plus de dureté à l'égard de nos concitoyens. Je prendrai l'exemple du maintien de l'ordre dans les manifestations, etc. Et puis il faut rétablir une relation de confiance entre les citoyens et la police, et donc il faut réprimer plus durement les violences policières, les contrôles aux faciès. Il faut remettre de l'apaisement et de la sérénité dans la République, et évidemment toujours, et là nous nous retrouverons tous, de la fermeté et une intransigeance à l'égard de celles et de ceux qui s'en prennent à nos policiers.
Les agresseurs n'ont pas confiance en leurs policiers, donc ils les agressent ?
Non,
je trouve que l'amalgame est
assez... Vous voyez, je disais que c'est un problème complexe et on essaie de caricaturer tout de suite.
Non, moi je suis complètement d'accord avec vous, monsieur le député, il faut remettre de la confiance entre les forces de l'ordre, mais comme je vous ai dit d'ailleurs, c'est pas seulement les forces de l'ordre, c'est tous ceux détenteurs de l'autorité publique. Et donc les enseignants, est dans le même principe.
Qui sont
les
concernés aussi,
les élus, l'augmentation...
Les agents de transport, les intervenants sociaux, les médecins, les pompiers.
L'augmentation des des agressions aussi sur les élus, sont quand même flagrantes. Tout ça, si vous voulez, on ne peut pas l'excuser. On ne peut que le condamner et on ne peut même pas trouver des...
Expliquer n'est pas excuser. Je vais paraphraser... Est-ce que vous m'avez entendu excuser ?
Je vais paraphraser la phrase d'un ancien Premier ministre sur lequel on a pu soutenir un moment, enfin vous un peu moins que moi, en disant que trouver une excuse...
Rétablir la confiance entre les citoyens.
Trouver une excuse, c'est... Enfin, expliquer, c'est déjà trouver une excuse. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait besoin de trouver d'excuses, effectivement, pour ceux qui agressent. Ceux qui agressent, ce sont des agresseurs, ce sont des délinquants qu'il faut condamner. Après, qu'il y ait un autre travail à côté avec ceux qui respectent l'autorité de l'État, qui respectent les enseignants, qui respectent le service public, là, bien sûr, il faut qu'on ait ce contrat de confiance entre les citoyens et l'État. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, trouver des excuses aux agressions des enseignants et des policiers.
Rétablir la confiance, ça peut être interprété de différentes manières.
Je n'ai trouvé aucune excuse. Je dis simplement, et là, je crois que la phrase « expliquer, c'est excuser » va à l'encontre de l'intelligence humaine, de la science, de la sociologie, de la recherche. On est face à un phénomène social. Nos sociétés, toutes et depuis toujours, sont traversées par de la violence. C'est inacceptable. Et moi, je suis pour la fermeté, la condamnation des actes de violence. Je suis pour une justice qui a les moyens de fonctionner. Mais c'est un phénomène dans la société. Donc, un phénomène dans la société, il faut bien l'expliquer pour réussir à le résoudre. Sinon, on est, comme vous l'êtes là, dans une espèce d'incantation et de surenchère permanente avec... on va toujours être dans plus de dureté, toujours plus de répression. Mais... Ça ne fonctionne pas. Donc, je pose simplement un constat. Je dis, oui, évidemment, les sanctions, les condamnations contre celles et ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, et nous serons d'accord là-dessus. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre ces phénomènes et les expliquer.
Je dis qu'il y a un climat de tension
dans la société.
On continue d'en parler,
notamment alimenté par les violences policières et les contrôles aux faciès. C'est tout ce que je dis.
Que faut-il faire pour empêcher les agressions contre les agents des forces de l'ordre ? On en parle dans Europe Midi. Dans quelques instants, petite pause et on revient. Restez avec nous.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
Nos forces de l'ordre sont 50 à 60 fois plus visées par les atteintes physiques ou verbales que tout le reste de la population. Nous en débattons, nous en parlons dans Europe Midi. La discussion reprend dans quelques instants, mais avant, le rappel de l'actualité avec Émilie Dez.
Chaque euro compte, a répété Bruno Le Maire à l'ouverture au Sénat des débats sur le pouvoir d'achat. Le ministre de l'économie veut limiter à 700 millions d'euros le coût supplémentaire des apports du Parlement. Quelques 440 amendements ont été déposés. Les débats pourraient durer jusqu'à samedi. Le Sénat se penchera ensuite dès lundi sur le projet de loi de finances rectificative. Un dîner polémique. Emmanuel Macron reçoit ce soir à Paris le prince héritier d'Arabie Saoudite avec un objectif, encourager le pays à augmenter sa production de pétrole pour faire baisser les cours du brut. Une visite qui fait bondir les défenseurs des droits de l'homme. Le prince héritier est accusé d'être à l'origine de l'assassinat d'un journaliste dissident. EDF accuse une perte historique au premier trimestre, moins 5,3 milliards d'euros en raison notamment de sa mise à contribution pour contenir la facture des Français. Les comptes sont au vert. En revanche, pour Total Energy qui a engrangé un bénéfice de 5,7 milliards au deuxième trimestre, soit le double de l'année dernière, le groupe bénéficie de la hausse des cours du pétrole et du gaz sur les marchés. La planète vit désormais à crédit. L'humanité a consommé l'ensemble de ce que la Terre peut produire en un an sans s'épuiser. Chaque année, la date avance. Le fameux jour du dépassement tombait le 11 octobre en 90, le 23 septembre en 2000. Et puis c'est terminé pour les Bleus, éliminés en demi-finale de l'Euro féminin de foot par l'Allemagne. Un match suivi par plus de 7 millions de téléspectateurs. La FFF va proposer à Corinne Diacre, sélectionneur des Bleus, de prolonger son contrat jusqu'au JO 2024.
Merci Émilie Dez qui vous accompagne, vous informe jusqu'à 17h sur Europe 1.
Europe 1.
Mardi, en Seine-Saint-Denis, deux policiers municipaux ont été roués de coups par des individus près d'un point de deal. La semaine dernière, à la Guillotière, on a tous vu ces images extrêmement choquantes. Des dizaines d'individus ont là encore roué de coups. Trois policiers en civil à coups de barres de fer, de bâtons. Les images sont très, très éprouvantes, très difficiles à voir. Avant la pause, nous essayons d'identifier les racines, les raisons de la violence. Xavier Iacovelli, quelles sont-elles, ces causes ?
Moi, ce qui me dérange dans l'intervention de monsieur le député de la NUPES, c'est que on parle d'un rapport ministériel sur les agressions des forces de l'ordre, sur les forces de l'ordre et les raisons et comment est-ce qu'on peut mieux les protéger. Et monsieur le député nous répond contrôle aux faciès et violence
policière.
Je vous réponds
d'abord que c'est inacceptable et qu'il faut protéger nos policiers.
Mais vous essayez de trouver des excuses en expliquant que c'est parce qu'il y a de la violence policière et parce qu'il y a des contrôles aux faciès que les forces de l'ordre, que nos policiers municipaux sont agressés. Non, c'est pas tolérable. On ne peut pas accepter cet amalgame. Donc oui, il y a effectivement de la violence contre nos forces de l'ordre, contre, que je l'ai dit tout à l'heure, contre les élus, contre les enseignants. Ce sur quoi il faut travailler, avoir plus de sécurité, faire en sorte de mieux les protéger. Mais on ne peut pas, pardonnez-moi, faire cet amalgame et qu'il y ait des dérives sur certains policiers. Et ils sont condamnés. C'est pour ça qu'on a l'IGPN qui permet effectivement de sanctionner ceux qui ne respectent pas l'uniforme. Mais on ne peut pas faire l'amalgame sur les violences policières et sur les contrôles aux faciès.
Benjamin Lucas. Moi, je suis Monsieur Iacovelli, l'élu de Mantes-la-Jolie. Le 6 décembre 2018, à Mantes-la-Jolie, 151 lycéens ont été parqués, agenouillés, les mains sur la tête, pendant plusieurs dizaines de minutes, avec un policier qui a dit « voilà une classe qui se tient sage ». Donc, vous pouvez continuer à nier qu'il y a une situation de tension, de violence policière qui peuvent exister et qu'il faut condamner durement, et que cette situation, elle n'excuse pas, mais elle explique un climat de tension énorme pour celles et ceux qui subissent ces violences, mais aussi pour celles et ceux qui les voient. Et moi, je veux, et c'est ça ce qui devrait nous rassembler en tant que républicains, ce que je veux, c'est une police qui puisse faire correctement son travail. Et pour qu'elle puisse faire correctement son travail, il faut apaiser les relations entre la police et les citoyens. Cela n'excuse pas, absolument pas, les attaques et les agressions à l'encontre de nos policiers. Je les condamne comme vous. Mais simplement, on est responsable politique. On fait quoi? On est dans la surenchère verbale avec le Front National en permanence
pour essayer de toujours plus dur
se faire, je termine, se faire des peintures de guerre sur le torse et partir en guerre en permanence, où on essaye de comprendre la société avec laquelle nous avons à traiter, de la comprendre et d'en transformer les raisons qui font qu'il y a de la colère, il y a de la violence dans notre société. Soit on veut être dans l'incantation, soit on veut être dans l'action.
Mais moi, je veux être dans l'action et les solutions. Monsieur Lucas, vous l'avez rappelé, vous êtes député d'un territoire que je connais, les Yvelines, et d'un territoire notamment populaire. Mais c'est justement, c'est les classes populaires, c'est dans ces quartiers-là où justement les Français subissent le plus les questions d'insécurité et demandent de plus en plus de présence justement policière pour les protéger, pour lutter contre les points de deal et pour lutter contre tous les trafics qui pourrissent aujourd'hui la vie des quartiers. Donc pourquoi est-ce que votre majorité, en tout cas la majorité NUPES sur laquelle vous êtes membre en tant que génération, le mouvement de M. Hamon et écologiste, pourquoi est-ce que vous votez systématiquement contre tous les crédits, tous les éléments qui ont pu mettre plus de moyens sur la police, sur la sécurité? Vous avez, dans la précédente mandature, pas vous directement,
parce que
vous n'étiez pas député, oui, insuffisant. Donc c'est-à-dire que, puisqu'ils sont insuffisants, vous votez contre le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires lorsqu'on a fait lors du précédent quinquennat. Vous votez contre les quartiers de priorité républicaine, de reconquête républicaine, qui nous ont permis de mettre plus de police de proximité. Vous savez, la police parce de proximité que la droite avait supprimée et sur lesquelles nous nous battions à un moment quand nous étions dans la même famille politique, Monsieur Lucas, et nous nous battions pour avoir cette police de proximité. C'est ce gouvernement qui l'a remise en place.
Vous mettez en cause une idéologie.
Mais bien sûr, il y a
une
idéologie avec le leader Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui a complètement phagocyté l'ensemble de la gauche et qui idéologiquement est en opposition systématique. Excusez-moi, mais quand en pleine campagne législative, vous avez Mélenchon qui parle que la police tue. Si c'est pas un amalgame, ça, c'est bien. Et aujourd'hui, vous êtes pieds et poings liés dans cette majorité NUPES menée par la LFI.
Oui, cette phrase, quand même, tout le monde l'a lue sur Twitter, la police tue, donc signée de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'assumez, Benjamin Lucas?
Cette semaine-là, Jean-Luc Mélenchon réagissait à une actualité dans laquelle quelqu'un est mort. Mais je veux dire,
vous voyez
de quoi crève notre débat démocratique. On essaye de parler d'un sujet sérieux. J'essaye de discuter avec vous. Moi, j'ai pas mis en cause Emmanuel Macron. J'ai pas traité de leader Maximo Emmanuel Macron. Or, il faut voir à l'Assemblée nationale, vos amis La République en Marche, qui ne prennent jamais le micro, qui ne parlent sur presque rien, qui sont là uniquement pour applaudir et voter bêtement ce que dit le gouvernement. Donc, on peut jouer à ça. Moi, j'essaye de poser un problème sérieux, un sujet sérieux.
Vous pouvez regarder les postures que vous avez à la NUPES.
La relation de confiance entre les citoyens et la police, et vous êtes dans une espèce d'agression verbale contre ma famille politique. Bon, est-ce qu'on peut être sérieux à un moment donné? Je regrette que vous ne vouliez pas qu'on trouve ensemble des solutions, parce que je ne vous ai pas agressé.
Non, je fais un constat.
Je suis pas victime, vous savez, c'est
vous êtes dans une famille politique qui dit que la police tue.
Mais je suis dans
c'est
une
vrai
famille
ou c'est faux?
Mais monsieur,
est-ce que vous assumez ces propos?
Moi, j'assume tous les propos. qui ont été tenues pendant les élections.
C'est la différence entre vous et moi. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement,
moi,
je le dis.
Non, mais moi j'assume.
Vous ne le dites pas.
Je vais vous faire du « et » en même temps, ça vous plaira. Moi j'assume à la fois de défendre nos policiers, nos fonctionnaires de police, nos gardiens de la paix, qui font un travail remarquable, qui méritent d'être soutenus, qui méritent des moyens supplémentaires, qui méritent une vraie police de proximité et qui méritent d'être accompagnés parce que c'est aussi la profession qui fait le plus
donc
de burn-out.
Donc vous voterez les crédits,
policiers.
Les crédits supplémentaires.
Et en même temps, je vois, c'est la réalité, qu'il y a structurellement des violences policières, qu'il y a du racisme, qu'il y a, à raison de sa couleur de peau, on peut être contrôlé 7 fois plus ou 10 fois plus qu'un autre, et ce sont des études très sérieuses qui le disent. Et votre majorité refuse le récépissé de contrôle d'identité qui pourrait permettre de lutter contre les contrôles racistes auxquels nous pouvons assister. Et que si on n'est pas capable de traiter ensemble ces deux sujets, le soutien à nos policiers et le refus des violences et du racisme,
réconcilier les Français et la police, on ne réglera rien. Si vous stigmatisez nos forces de l'ordre,
je ne stigmatise personne, monsieur. Je viens de vous dire qu'il fallait les soutenir et qu'ils faisaient un travail héroïque.
En disant qu'il y avait des violences policières, en disant qu'ils étaient racistes et en disant qu'ils tuaient les Français.
Mais
vous assumez en plus les propos de Jean-Luc Mélenchon. Vous pourriez ne pas être en accord avec ces propos-là. Vous pourriez dénoncer ces propos-là. Tout en étant dans la majorité de M. Mélenchon.
Il y a une hiérarchie. Par exemple, combien de manifestants de gilets jaunes éborgnés, mutilés dans les manifestations à cause de M. Lallement ?
On s'égare.
Combien de policiers blessés par les manifestants qui n'étaient pas des manifestants, qui étaient des casseurs ?
Bien sûr, et je le dénonce.
Non, c'était toujours dans le même sens.
Non, moi j'ai toujours dénoncé les agressions contre les policiers.
Écoutez, en tout cas, votre famille politique,
vous ne trouverez pas chez moi une seule excuse. Une seule excuse donnée à quelqu'un qui agresse un policier.
Vous faites un pas de côté par rapport à votre famille politique ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Parce que, pardonnez-moi, mais la LFI, à l'époque, ne dénonçait pas effectivement les attaques contre les forces de l'ordre.
Il n'y a jamais un responsable de la France insoumise qui a dit que c'était bien d'agresser un policier. Vous devriez retirer ces propos, monsieur, c'est extrêmement insultant.
Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit qu'il n'y en a aucun qui dénonçait les attaques.
Vous avez tort.
Par contre, quand il y avait un gilet jaune de blessés, effectivement, là, c'était les premiers à faire
un tweet. Est-ce qu'on peut partir du principe que tout le monde considère que la violence, c'est pas bien? Est-ce qu'on peut partir du principe que tout le monde considère qu'agresser
tout le monde est d'accord ici pour le dire.
Fonctionnaire de police, enseignant, soignant,
tout le monde est d'accord pour dire que la police ne tue pas?
Mais moi, je vous dis, il y a eu la semaine où Jean-Luc Mélenchon a dit ça, il y a des violences policières qui conduisent à la mort de certaines personnes. C'est une réalité aujourd'hui. On peut se la cacher, on peut se voiler la face, on peut reconnaître qu'il y a un sujet complexe à traiter,
monsieur. Vous ne pouvez pas, monsieur le député, en tant que représentant de la nation, dire que la police tue. Ça veut dire que la police tue, vous estimez que c'est l'organisation d'État qui organise le meurtre d'un certain nombre de concitoyens.
Il y a aujourd'hui,
est-ce que vous assumez ces propos ?
Il y a aujourd'hui, monsieur, on n'est pas dans un tribunal, donc vous allez baisser d'un ton.
Et c'est moi le chef.
C'est un débat, je vous pose des questions.
Eh bien, je vous dis que vous êtes dans un aveuglement qui consiste à ne pas voir qu'il y a des violences policières, que de ces violences policières peuvent parfois résulter des morts.
Je note que vous ne répondez pas à ma question.
Et qu'aujourd'hui, l'IGPN n'est pas indépendante et qu'aujourd'hui, vous avez un ministre de l'Intérieur, votre ami monsieur Darmanin, qui se comporte plus comme le porte-parole du syndicat d'extrême droite Alliance que comme un ministre de l'Intérieur de la République, plus comme un chef de clan que comme un ministre de l'Intérieur de la République, et qu'il ne fait rien pour lutter contre ces violences policières, rien pour lutter contre le racisme dans la police, et que tant que nous n'abordons pas ces problèmes, eh bien on crée de la tension et de la violence. Mais visiblement, vous préférez, pour votre surenchère avec l'extrême droite, pour votre course de vitesse verbale avec l'extrême droite, continuer à être dans le slogan et l'incantation plutôt que dans les solutions.
On a bien compris, Benjamin Lucas, que vous combattrez le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui arrivera à la rentrée. Le sujet va revenir. Benjamin Lucas.
Bien sûr, il y a une course
à l'extrême droite, selon vous, de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Mais en même temps, M. Darmanin,
qui va d'ailleurs à la Guillotière, à Lyon, où il y a eu ces incidents samedi.
Il a sa cohérence, M. Darmanin. Il y a quelques mois, il nous expliquait que Mme Le Pen était trop molle. On est en train de voir la démonstration de ce que ça traduit politiquement.
Donc, quel est votre contre-projet pour soutenir ? Parce que vous dites que vous voulez soutenir la police, que vous voulez... Enfin, moi, je me rappelle, pardonnez-moi, quand on est arrivé aux responsabilités en 2017, effectivement, c'est cette majorité qui a permis effectivement le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires, de renouveler la moitié du parc automobile, parce que effectivement, les précédents gouvernements avaient laissé en jachère ce projet, et donc les policiers ne pouvaient même plus se déplacer dans les quartiers puisqu'ils n'avaient plus de véhicules, où nous avons payé des millions d'heures supplémentaires qui étaient laissées effectivement par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, non payées parce que effectivement pour des raisons de budget, on laissait les heures supplémentaires non payées. C'est ce gouvernement qui a soutenu effectivement les forces de l'ordre pour permettre d'avoir plus de sécurité, plus de bleus sur le terrain. Parce que les Français sont en demande, et y compris dans votre électorat, monsieur Lucas, c'est ça que vous n'avez arrivé pas. C'est pour ça que cette gauche, vous n'êtes plus dans la gauche du réel, vous êtes dans la gauche de l'idéologie.
Franchement, vous venez du Parti Socialiste avant d'être implémenté du macronisme, vous avez tenu des raisonnements un peu plus sérieux que vous n'êtes pas la gauche du réel.
Monsieur, je viens d'un Parti Socialiste qui a assumé, dans ces quartiers populaires dont je vous parlais,
j'ai fait 88%. Donc le réel, ce que disent les gens, je l'entends autant que vous. Moi, je suis élu direct. Donc, honnêtement, vous ne pouvez pas m'accuser de ne pas connaître le pays et de ne pas connaître les électeurs.
Moi, je n'ai jamais été parachuté dans un territoire. J'ai toujours été élu dans le territoire où je suis né, et je suis élu municipal dans ma ville où je suis né.
En trahissant votre famille politique, en allant à la gamelle chez Macron.
moral bon, aux gens qui sont parachutés d'une circonscription
mais
à une autre.
Monsieur, c'est les électeurs qui ont décidé de m'élire. Le mieux élu depuis 2002. Le mieux élu dans cette circonscription.
Donc, on vous entend plus. De remettre en cause la connaissance de votre territoire.
On parle de sécurité. Dernière fois, Benjamin Lucas, et on change de sujet.
Eh bien, moi, j'écoute ce que me disent les policiers que je rencontre et que je rencontre toutes les semaines sur le terrain. Ils me disent qu'il n'y a toujours pas assez de moyens. Ils me disent qu'il n'y a toujours pas assez de considération.
Donc
ils
vous voteraient plus de moyens.
Ils me disent que les consignes, qu'on leur donne. Regardez, moi,
Vous voteraient donc les crédits supplémentaires, monsieur le député. Vous êtes
monsieur
on
Darmanin,
d'accord,
monsieur l'Allemand, la politique du chiffre, la politique de la brutalité. Il faut mettre de l'apaisement dans la République et de l'apaisement dans le pays. Il faut protéger nos policiers.
Donc, monsieur le député, vous êtes d'accord, puisque, a priori, on est d'accord que soutenir les forces de l'ordre, ce n'est pas de l'extrême droite, c'est soutenir les forces de l'ordre, parce que vous me dites qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc, vous soutiendrez. Vous annoncez aujourd'hui que la NUPES soutiendra les crédits supplémentaires pour avoir plus de policiers, pour qu'ils soient mieux payés, comme nous avons fait au précédent quinquennat, pour qu'ils aient les heures supplémentaires payées, plus de véhicules, et qu'ils soient moins d'actes administratifs et plus sur le terrain auprès de nos concitoyens. On est d'accord.
Moi, je soutiendrai et j'amenderai tout ce qui permettra de renforcer la confiance entre les policiers et nos concitoyens. Et que ce renforcement de la confiance, il passe évidemment par plus de moyens pour nos policiers.
On a bien compris que vos visions, vos approches de ces événements qui traversent la société française étaient différents. Et après tout, c'est ça qui est intéressant. On change de sujet maintenant. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, Xavier Iacovelli. Quand vous n'êtes pas d'accord avec votre chef, vous le dites. Est-ce que vous cautionnez ce dîner ce soir entre le président Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS comme on l'appelle, et qui revient donc en France pour la première fois depuis l'affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a été tué dans des conditions particulièrement barbares au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul.
Alors moi déjà j'ai pas de caution à donner à le fait si le président de la République peut recevoir ou pas un chef d'État. Je vous cache pas que le fait de recevoir le prince héritier d'Arabie Saoudite,
Mohamed Ben Salman, voilà. MBS.
Pardonnez-moi de pas, moi je pardon, cite non, uniquement son.
On m'a
son,
signalé
son
que j'avais pas dit son nom.
D'accord. Voilà. En l'occurrence, c'est aussi pour, comme vous l'avez précisé tout à l'heure dans votre fil info, c'est pour faire en sorte qu'il y ait plus de production de pétrole, pour faire baisser le cours du pétrole, le prix du baril, et pour nous permettre effectivement de soutenir le pouvoir d'achat des Français et pas des Français, d'ailleurs, des Européens dans leur ensemble.
Faire baisser le prix à la pompe.
Faire baisser le prix à la pompe. Donc, c'est aussi une négociation et c'est le rôle du chef de l'État de recevoir les différents chefs d'État, comme il y a pu effectivement avoir des entretiens réguliers avec Vladimir Poutine. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est ça non plus un modèle en termes de démocratie. Et je pense que recevoir le prince héritier d'Arabie Saoudite, ce n'est pas cacher et dénier un peu les problèmes de droits de l'homme. Et je pense qu'effectivement, le président de la République a aussi dans son rôle de pouvoir affirmer un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Il a dénoncé en son temps ce qui s'était passé avec le journaliste. Il a condamné et je pense maintenant qu'il faut avancer avec l'Arabie Saoudite. C'est un partenaire économique historique de la France, des États-Unis également. On a aussi besoin de l'Arabie Saoudite dans la lutte contre le terrorisme et ça c'est on a aussi besoin de parler avec les pays du Golfe et on le fait régulièrement. Donc il faut garder ces liens, mais tout en assumant un certain nombre de désaccords et notamment sur la question des droits de l'homme.
Benjamin Lucas, l'ancien candidat à l'élection présidentielle Yannick Jadot s'insurge ce matin contre ce dîner. La chef des députés macronistes Aurore Berger, elle défend la nécessité du dialogue. Il faut faire de la réelle politique dans ces cas-là.
Moi, je suis choqué par ce que j'entends et par ce que dit Mme Berger. Des désaccords, M. Iacovelli ? Du dialogue ? Moi, je n'ai pas envie de dialoguer avec quelqu'un qui condamne à mort les homosexuels. Moi, j'ai pas envie de dialoguer avec quelqu'un qui accorde aux femmes le statut des mineurs, avec quelqu'un qui a commandité le meurtre d'un journaliste. Et pourquoi on lui vend des armes et pourquoi on lui achète du pétrole ? Parce qu'on a besoin du pétrole. Et on voit bien que cette dépendance aux
premier
énergies fossiles,
exportateur de pétrole.
Les énergies fossiles sont des énergies de guerre. Et Yannick Jadot a raison de le rappeler, c'est ce que nous avons dit dans toute la campagne présidentielle. Non seulement ces climaticides, mais ces énergies sont des énergies de guerre. L'énergie renouvelable est une énergie de paix.
Alors qu'est-ce
Il
qu'on
faut
fait
sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, parce que là on voit bien et on entend dans votre discours qu'on a ce dîner de la honte ce soir et qu'on est dans le reniement de nos valeurs. Et pardon, monsieur Iacovelli, c'est pas juste un désaccord. C'est pas juste des désaccords. On n'est pas dans de la discussion, on n'est pas dans du... Et en même temps, la France, la République, c'est des valeurs. Et ce dîner ce soir, c'est Emmanuel Macron qui crache à la figure des valeurs de notre République, qui insulte celles et ceux qui, en Arabie Saoudite, subissent cette politique, injuste, inhumaine et brutale. Moi, je suis extrêmement choqué par ce que j'ai pu entendre de la part de la majorité qui justifie.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même le premier pays exportateur de pétrole au monde.
On organise et on planifie la bifurcation écologique et la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles. Mais vous avez eu 5 ans. Vous avez eu 5 ans, vous ne l'avez pas fait.
Xavier Iacovelli,
attendez, c'est la même chose qu'avec le gaz russe. On choisit de se mettre dans la main des dictatures ou on choisit l'indépendance, la souveraineté et la paix. C'est aussi simple que ça. C'est un choix d'humanité.
C'est risible et malheureusement, je ris jaune quand j'entends des leçons de morale venant de la NUPES, alors même que la même NUPES refuse de condamner la Russie, a refusé de soutenir financièrement à l'échelle européenne l'Ukraine, fait la tournée, d'ailleurs votre leader Maximo fait la tournée aujourd'hui des pays d'Amérique latine qui, on ne peut pas dire en termes de démocratie, soit franchement un modèle.
Donc,
pardonnez-moi, mais arrêtez avec vos leçons de morale. Vous êtes quand même les moins bien placés pour nous donner de leçons de morale et de leçons de valeur sur ces questions-là. Le jour où vous assumerez de condamner clairement et depuis le début les attaques russes contre...
C'est à moi que vous dites ça ?
Pardonnez-moi.
J'étais monsieur dans la campagne présidentielle, le porte-parole Yannick Jadot, qui était le premier candidat à l'élection présidentielle.
La Russie, qu'est-ce qu'ils font avec les homosexuels ? La Tchétchénie, qu'est-ce qu'ils font ?
Vous êtes les premiers à ne pas soutenir les attaques
et les sanctions économiques contre la Russie à l'échelle européenne.
Vous vous êtes trompé de cible, monsieur Iacovelli. Moi, j'étais le porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle qui a été le premier, quand Emmanuel Macron le refusait, à dire que M. Poutine était un dictateur. Le
Vous dénoncez la position de la LFI qui domine la NUPES aujourd'hui. Je vous pose la question.
Aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est président de la République, même si je vois qu'il vous obsède. Même si je constate qu'il vous obsède. On parle d'un sujet sérieux.
C'est votre leader.
N'allez pas faire la politique politicienne. Chacun connaît sur ces questions les nuances qui peuvent exister entre nous.
Je croyais que vous étiez dans la même famille politique.
Benjamin Lucas vous répond.
Oui, avec des complémentarités et des nuances, on n'avance pas le doigt sur la couture du pantalon.
Mais vous savez, c'est un effort.
On est dans un sujet sérieux. Est-ce qu'on peut sortir de la politique politicienne ? C'est vous qui êtes en responsabilité, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est votre candidat devenu président de la République, réélu, qui reçoit aujourd'hui
votre candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et donc, je vais continuer. On est en campagne présidentielle, là ?
Mais peu importe, c'est celui qui assume d'être le représentant de la NUPES.
Là, vous avez Benjamin.
Vous êtes aujourd'hui dans une alliance, s'il vous plaît.
Oui, eh bien.
C'est votre leader.
Chacun son tour. Voilà.
Je vais continuer dans la leçon de morale. Vous l'avez dit dans le journal tout à l'heure et je vous remercie de l'avoir fait parce que trop peu en parlent. Nous sommes aujourd'hui le jour du dépassement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la planète vit à crédit. Et vous êtes en train d'organiser notre diplomatie et notre économie autour de la dépendance aux énergies fossiles, de la soumission aux énergies fossiles. Ça veut dire que vous alimentez en ce moment même ce qui nourrira des guerres, ce qui nourrira des dictatures, et ce qui nourrira la chute climatique, l'effondrement climatique dans lequel
nous organisons la transition écologique depuis plus de 5 ans.
Mais que dalle, la transition écologique, vous avez été condamné deux fois par la
justice.
Alors vous savez qui est-ce qui a été condamné, monsieur Lucas, puisque a priori vous êtes député, donc vous avez accès aussi à ces rapports. C'est le gouvernement Hollande qui a été condamné. C'est sous le gouvernement Hollande qui a été condamné.
C'est sous le gouvernement Hollande, donc vous n'assumez pas non plus les accords de Paris.
Mais c'est pas
vous êtes
vrai,
en dessous des accords de Paris.
On ne devrait pas faire de la politique avec ça. Vous avez été condamné. Le gouvernement Hollande a été condamné sur la période du gouvernement Hollande, ce que je regrette. Parce que moi, je soutenais le gouvernement Hollande. Sauf qu'il y a, une trajectoire. Enfin, vous l'avez soutenu jusqu'à temps que.
S'il vous plaît, on est vraiment en train de s'éloigner du sujet là.
Vous avez soutenu, et donc, en l'occurrence, cet accord, des accords de Paris sont respectés. Et nous organisons la transition écologique depuis plus de 5 ans, comme jamais. Nous avons réduit les émissions à effet de serre, comme jamais en France depuis 5 ans. Bien sûr que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parce qu'avec vous, on pourrait tout changer en claquant des doigts. Il y a une transition. Aujourd'hui, nos concitoyens ne peuvent pas du jour au lendemain se priver de fuel et se priver d'essence. D'ailleurs, je vois que vous avez même voté un amendement sur le fuel, en prenant ça d'ailleurs sur les quartiers populaires et les quartiers politiques de la ville. Donc c'est bien que vous-même, vous avez conscience aujourd'hui que vous êtes obligé de subvenir. Donc la transition écologique, elle est en cours. On développe, on investit comme jamais dans la transition écologique, dans les énergies renouvelables. Donc arrêtez de nous donner des leçons de morale aujourd'hui.
Accompagnez-nous plutôt là-dedans.
On a effectivement besoin de tout le monde sur cette question de la transition écologique, mais ne nous donnez pas des leçons de morale et ne soyez pas dans une opposition systématique à chaque fois que vous voulez faire une posture.
Dans une situation d'urgence, le plein d'essence coûte très cher aujourd'hui pour les Français, pour celles et ceux qui nous écoutent. Doit-on hiérarchiser les dictatures, les horreurs pour faire réduire le prix d'essence, plutôt que de payer à dîner un dictateur, mais quand même,
la France c'est des valeurs. La France c'est des valeurs et moi je dis, et c'est pour ça que moi je défends par exemple l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, parce que je pense que la France, ce sont des valeurs. Et je pense qu'on ne peut pas accepter
un embargo sur le pétrole et le gaz russe.
Sont condamnés à mort,
nous
dans lequel
conduit
les femmes ont le statut
à diversifier nos partenaires.
Dans lequel on commandite l'assassinat de journalistes. Enfin, quand même. Ou alors, ça veut dire qu'on n'a plus aucune dignité, ça veut dire que la République, ça ne veut plus rien dire. Enfin, le président de la République, il est président de la République et il est le garant de ses valeurs. Donc, si on veut réduire les prix à la pompe, on bloque, on fait comme on le propose, on bloque le prix des carburants. On peut le faire par décret. On le fait.
Mais
on
il faut les avoir, les carburants, pour coucher. Bloquer, en fait.
On est
vous, vous prenez vos carburants où, monsieur
on pas obligé
Lucas
de Mais attendez, la France, ça reste un grand marché. Vous savez, ils seront contents de vendre du...
Non, mais vous, alors, si vous ne voulez pas l'Arabie Saoudite, la vous ne voulez pas la Russie, vous ne voulez pas les pays du Golfe, vous voulez...
Mais je veux organiser...
Le gaz de schiste, il est moins cher.
Le gaz de schiste,
l'Arabie Saoudite est le premier pays producteur et exportateur de pétrole au monde.
Dans l'urgence, on bloque les prix. Le pétrole, il est là. Il est produit et il est vendu. Et la France reste un très
donc
gros marché. Donc on
continue
peut bloquer
à
les prix
acheter à l'Arabie Saoudite.
Et on organise beaucoup plus vite que vous ne le faites. D'ailleurs, vous ne le faites pas. On organise la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Le court, le moyen et le long terme. Ça implique, oui, d'avoir du courage politique. Et ça implique
parfois, donc c'est ce qu'on est en train de faire,
de savoir
monsieur,
dire non,
le député.
Parce que là, vous, le président de la République, il est en train de dérouler le tapis rouge, avec, alors quand même avec un peu de gêne, hein, parce qu'on nous dit, on précise, oui, mais vous,
c'est
pas
assez
un
discret.
D'état.
C'est assez discret.
Mais enfin, quand même, on reçoit.
Mais vous mélangez tout.
Pardon,
en fait.
Je le redis pour qu'on comprenne bien.
En quoi la transition
attendez,
écologique
alors, je vais
est incompatible
pétrole,
avec le fait de recevoir.
Pardon.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman.
Ça m'intéresse ce que vous dites. Alors,
dis-moi.
Donc vous êtes en train de dire qu'on ne le reçoit pas que pour le pétrole. Parce que moi, je répondais à l'argument qui dit on est bien obligé de le recevoir, il a du pétrole. Mais alors là, vous êtes en train de nous dire
la transition écologique. Nous sommes effectivement engagés dans la transition écologique pour sortir des énergies fossiles, mais en l'occurrence, il y a l'urgence. Quand vous allez dans votre circonscription entre Paris et Mantes-la-Jolie, vous y allez comment, monsieur?
J'y vais en train, monsieur.
Vous allez en train?
Ah oui, j'y vais en train. Il y a un très bon réseau de transport. Oui,
à Mantes-la-Jolie, c'est pas forcément le meilleur
j'y vais en train. Si, vous d'accord. Avez pris deux exemples, mais j'y vais
s'il vous plaît.
J'ai pas le permis de conduire, moi. Donc,
on parlait pas de ferroviaire, là.
J'ai aucun problème.
Donc, vous ne déplacez jamais. Mais le problème, c'est que vous avez la chance, effectivement, d'être dans une zone peut-être avec des transports en commun.
Et c'est pourquoi, monsieur,
nos compatriotes qui sont dans la ruralité, je ne suis pas sûr aujourd'hui.
Mais c'est pour ça que moi, je défends le blocage des prix. Je défends le blocage des prix.
Pour aller travailler.
C'est pourquoi, monsieur Iacovelli, je défends le blocage des prix que votre majorité, minorité présidentielle, a refusé de voter quand nous l'avons proposé au moment de l'examen de la loi sur le pouvoir d'achat.
Vous parlez blocage des prix alors que vous voulez vous refuser d'acheter le pétrole.
Vous n'êtes pas à
l'aise
sur la réception du
ça coûte très cher le blocage des prix.
Xavier
Iacovelli.
Non, moi j'ai
vous l'expliquez, vous en parlez plus. Vous m'amenez sur la voiture.
Vous refusez qu'on achète le pétrole à l'Arabie Saoudite. Pardonnez-moi, j'essaie de vous comprendre votre raison.
Je refuse qu'on abdique tous nos principes au nom de quelques gouttes de pétrole.
Donc on n'achète plus à l'Arabie Saoudite.
Donc on ne reçoit pas. On ne reçoit pas.
On peut assumer.
On peut lui acheter du pétrole.
Donc économiquement, donc en fait c'est encore plus fourbe ce que vous dites.
On peut lui acheter du pétrole sans lui lécher les bottes. On peut lui acheter du pétrole sans cautionner.
On continue à lui donner de l'argent.
Le fait que les homosexuels sont condamnés à mort dans ce pays.
Qui ont été condamnés par le président de la République. Ça a été condamné par
Selon vous, le président va-t-il évoquer la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite?
Moi, je le souhaite.
La situation des homosexuels, femmes aussi.
Je ne sais pas, je ne connais pas les propos qui seront tenus. Moi, je le souhaite, bien sûr.
Est-ce que vous êtes d'accord pour, avec moi, solennellement, à ce micro, demander à Emmanuel Macron de renoncer à ce dîner au nom des valeurs qui sont les nôtres, au nom des droits de l'homme et au nom du devoir d'humanité que nous avons avec les Saoudiens et les Saoudiens.
Non, moi je ne souhaite pas qu'ils renoncent à ce dîner parce que je pense que c'est par le dialogue qu'on fait avancer les choses et qu'un certain nombre de choses ont avancé. Je me rappelle sur l'épisode du Liban entre l'Arabie Saoudite et le Liban. C'est aussi par un dialogue avec
la
France.
L'Arabie Saoudite joue un rôle très important dans les conflits au Moyen-Orient
et
aussi.
Et donc je pense qu'on a
Syrie,
besoin de l'Arabie Saoudite pour régler un certain nombre de sujets sur les questions de Moyen-Orientale. Et donc on a besoin effectivement d'avoir ce dialogue. Moi je suis pas pour le fait de rompre les dialogues avec les grandes puissances mondiales, mais par contre réaffirmer un certain nombre de valeurs, moi je suis d'accord et je pense que c'est l'occasion ce soir, ce dîner, de pouvoir réaffirmer un certain nombre de valeurs que nous portons tous. Ouais.
Vous répondez et vous vous laissez parler s'il vous plaît parce qu'on a du mal à vous entendre.
Vous savez comme moi, monsieur Iacovelli, que la politique c'est aussi une affaire de symboles. On peut avoir un dialogue diplomatique entre ambassades, entre diplomates, sans donner la caution d'une réception à l'Élysée à quelqu'un qui, je le redis et je le redirai sans cesse, condamne à mort les homosexuels, considère les femmes comme des mineurs, a commandité l'assassinat d'un journaliste, etc. Donc, vraiment, on peut avoir là de la nuance et de la mesure là-dessus. On n'est pas obligé de donner ce brevet de respectabilité en étant reçu à l'Élysée. C'est ça la différence que nous avons entre nous. Vous savez, Churchill disait, on ne discute pas avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires. Eh bien, on ne discute pas avec un dictateur quand on est dans une situation ou quand on se place volontairement dans une situation de dépendance à l'égard de ces énergies fossiles. C'est ça la différence entre nous. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on dialogue, que notre diplomatie, qui est une très grande et belle diplomatie, d'ailleurs que vous avez sérieusement abîmée entre les deux tours de l'élection présidentielle, hein, la diplomatie française, vous avez cassé le corps diplomatique avec beaucoup d'acharnement. On a une très grande et une très belle diplomatie. Laissons-la faire. N'allons pas construire des symboles qui pèseront lourd. Parce que je pense, et je termine par ça, je pense à ces Saoudiennes aujourd'hui considérées comme des mineurs. Je pense à ces Saoudiens et Saoudiennes homosexuels condamnés à mort. Que vont-ils, que vont-elles voir sur les écrans de télévision dans leur pays leur bourreau reçu avec le tapis rouge à l'Élysée. Eh bien ça, c'est une blessure importante, majeure pour celles et ceux qui croient aux droits de l'homme, qui croient à l'égalité, qui croient à notre devoir d'humanité.
Europe Midi touche à sa fin. J'avais une dernière question pour vous, citoyen Lucas. Vous parliez de la force du symbole. Tiens, trois députés insoumis de votre intergroupe, la NUP, commémorent la mort de Robespierre à Arras aujourd'hui. Robespierre mort il y a 228 ans, nous étions alors au mois de Thermidor, le 10 Thermidor de l'an 2. Ça vous choque, ça ?
Non, pas du tout.
Ce type d'hommage ? Robespierre qui a voulu rebaptiser la Vendée en Vengée ?
Pas du tout. La Révolution est un bloc et Robespierre est une figure importante, marquante de la Révolution, du combat pour la justice sociale. Il y a des querelles d'historiens, évidemment.
C'est une figure controversée.
Sur son rôle dans la terreur, bien sûr, mais moi je crois que c'est lui rendre hommage, c'est rendre hommage à la Révolution à laquelle nous devons notre démocratie, notre République, à cette glorieuse et belle Révolution française. Et on est bientôt le 4 août, il faudra aussi penser à abolir les privilèges, ou en tout cas à traduire concrètement l'abolition des privilèges dans les années qui viennent.
Xavier Jacobi, très très vite.
Oui, moi je pense qu'on peut rendre hommage à la Révolution et à toutes les avancées sociales, mais peut-être pas à Robespierre, qui est quand même un artisan de la terreur.
Merci Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, territoire de progrès. Merci Benjamin Lucas, député écologiste NUP des Yvelines. C'est ainsi que se referme Europe Midi. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'Europe 1. Dans quelques instants, les meilleurs moments de la France bougent avec Elisabeth Assayag.
Raphaël Delvolvé sur Europe 1.